Vous écoutez RFI, il est 14h à Mamoudzou, midi ici à Paris et 11h en temps universel.
Guillaume Ouattara.
À la une de ce journal, François Bayrou en visite express à Mayotte. Le Premier ministre français vient avec un plan pour reconstruire l'archipel en 2 ans. Nous serons sur place dès le début de ce journal. L'ancien président américain Jimmy Carter est mort à l'âge de 100 ans. Prix Nobel de la paix, il avait œuvré à la signature d'un traité entre Israël et l'Égypte. C'était en 1978. Dominique Pellicot ne fera pas appel. Condamné pour avoir violé et fait violer sa femme par des dizaines d'inconnus, une quinzaine d'autres, coaccusés, ont eux décidé d'être à nouveau jugés. Et puis dans cette édition reportage sur la fin de vie, un projet de loi a été examiné avant la dissolution de l'Assemblée nationale en France cet été. Mais tout dans le texte ne faisait pas l'unanimité, on vous explique dans un instant. 5 ministres pour un archipel. François Bayrou, le Premier ministre, et 4 autres membres du gouvernement sont en visite depuis ce matin à Mayotte, 15 jours après le passage du cyclone Chido qui aurait coûté la vie à au moins 39 personnes. Pour François Bayrou, les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées. Les décès se comptent en quelques dizaines ou quelques centaines. Bonjour Lola Fourmi.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RFI et la visite de l'équipe ministérielle est chronométrée.
Atterrissage à 5h40 ce matin à Dzaoudzi, décollage pour la réunion prévue ce soir vers 21h. Une douzaine d'heures donc pour découvrir l'ampleur des dégâts. Les ministres ont d'abord pu visiter une usine de dessalement de l'eau à Petite-Terre, usine de production toujours déficitaire. François Bayrou s'est d'ailleurs interrogé sur l'absence de citernes. L'eau, une préoccupation vitale pour les habitants de Mayotte, puisqu'elle est toujours coupée dans de nombreuses parties du territoire et les distributions de bouteilles sont très aléatoires.
Lola, autre priorité abordée ce matin, c'est l'éducation.
Oui, avec des pistes pour la rentrée. Le recteur prévoit un retour des professeurs le 13 janvier et le 20 pour les élèves, mais en mode dégradé, 3 rotations par jour, faute de place, soit quelques heures de cours seulement pour les élèves. Ce matin, au collège de Kaweni 2, à Mamoudzou, les ministres ont découvert les séquelles laissées par le cyclone, mais aussi par les pillages. Les enseignants déplorent d'ailleurs un manque de sécurisation des lieux auxquels le Premier ministre a répondu par l'envoi rapide de nouveaux militaires. Les moyens mis en œuvre par ailleurs pour nettoyer, réparer et fournir du matériel scolaire aux sinistrés n'ont pas encore été précisés.
Mais alors Lola, pour l'heure, pas d'annonce concrète.
Non, sur la rentrée, tout comme sur l'hôpital de campagne, tout peut encore être amendé, modifié au vu de ce que le Premier ministre découvre sur le terrain. C'est ce qu'il nous a confié ce matin. À l'heure où je vous parle, les ministres sont en réunion stratégique avec les différents acteurs du territoire. François Bayrou prendra la parole en fin de journée pour dévoiler ce qu'il appelle le plan Mayotte debout. En attendant, les habitants, auxquels se sont finalement très peu confrontés les ministres depuis ce matin, attendent surtout des béquilles rapides pour se relever.
Merci Lola Fourmi pour toutes ces explications en direct depuis Mayotte pour RFI. En France, toujours Dominique Pellicot ne fera pas appel. Condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué et livré sa femme Gisèle à des viols répétés par des dizaines d'inconnus pendant près d'une décennie. Son avocate Maître Zavaro a indiqué que son client refusait d'imposer un nouveau procès à sa femme âgée de 72 ans. Notez en revanche qu'une quinzaine de co-accusés sur les 51 condamnés ont interjeté appel, entraînant un nouveau procès devant une cour d'assises. Aux États-Unis, Jimmy Carter, l'ancien président, est mort. Il était aussi prix Nobel de la paix, mort à l'âge de 100 ans dans son domicile de Géorgie. Sa disparition a suscité une vague d'hommages à l'échelle internationale. Le président sortant, Joe Biden, a décrété une journée de deuil national. Ça sera le 9 janvier prochain pour honorer ce démocrate qui a marqué l'histoire par son engagement en faveur des droits humains. Les dirigeants mondiaux ont salué son rôle diplomatique, notamment lors des accords de Camp David, où il a permis la signature d'un premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, c'était l'Égypte. Le président égyptien et les médias du pays ont salué la mémoire du défunt président en tant qu'artisan de la paix égypto-israélienne. Ils ont aussi salué ses initiatives humanitaires de par le monde. Le décryptage d'Alexandre Bouchanti.
La paix avec Israël, c'est la première réaction des Égyptiens quand ils entendent le nom de Jimmy Carter. En 1978, lors des négociations de Camp David, les Égyptiens suivaient avec un intérêt passionné les allées et venues de Jimmy Carter entre le président égyptien Anwar Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin. Un feuilleton qui a duré 13 jours et qui a permis la signature en mars 1979 du traité de paix égypto-israélien. une paix qui est toujours restée froide, la majorité des Égyptiens restant hostiles à l'État hébreu, mais ne voulant plus de guerre. Toutefois, Jimmy Carter reste apprécié par la majorité des Égyptiens, car c'est grâce à lui que le Sinaï a été récupéré et que le canal de Suez a réouvert. L'aide américaine annuelle de près de 2 milliards de dollars à l'Égypte remonte aussi à Jimmy Carter. Carter qui est un des rares présidents américains consensuels, même pour les anti-traités de paix. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Le président intérimaire de la Corée du Sud a ordonné une inspection d'urgence de toutes les opérations aériennes du pays. Cela fait suite au crash d'un Boeing 737 de la compagnie Jeju Air à l'aéroport de Muan. C'était dimanche, l'accident le plus grave de l'histoire de l'aviation sud-coréenne qui a fait quelque 179 morts avec seulement 2 membres d'équipage survivants. Notez que depuis l'accident, la compagnie aérienne enregistre 68 000 annulations sur ses vols. En Serbie, l'ancien ministre des Transports, Goran Vesic, et 12 autres personnes ont été inculpées lundi dans l'affaire de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad, qui a fait 15 morts début novembre. Le parquet de la ville a soumis un acte d'accusation au tribunal supérieur, accompagné de l'ensemble des preuves collectées lors des enquêtes préliminaires. L'effondrement qui a endeuillé la deuxième ville de Serbie met en lumière de possibles défaillances structurelles et des négligences dans la gestion du projet. Les autorités judiciaires cherchent à établir les responsabilités dans cette tragédie qui a choqué le pays. On passe à notre reportage du jour et nous vous proposons cette semaine de nous arrêter sur des événements qui ont marqué l'actualité française en 2024. Aujourd'hui, le débat sur la fin de vie, un projet de loi sur le sujet était en cours d'examen à l'Assemblée nationale au printemps jusqu'à ce que la dissolution rende le texte caduc. Le premier volet faisait consensus, il parlait du renforcement des soins palliatifs. Le deuxième volet, en revanche, divisé, il s'agissait d'autoriser sous conditions précises une aide à mourir. Elle prenait la forme d'une assistance au suicide avec une exception d'euthanasie, une légalisation très attendue par certains, redoutée par d'autres. Le décryptage de Valérie Cohen pour RFI.
Mesdames et messieurs les députés, si les soins palliatifs reposent sur une éthique de la vulnérabilité de la personne, l'aide à mourir postule la volonté et l'autonomie du patient sur sa vulnérabilité.
Le 27 mai 2024, après une longue gestation, le projet de loi sur la fin de vie arrive en séance publique à l'Assemblée nationale, introduit par Catherine Vautrin, alors ministre de la Santé du gouvernement Attal. La légalisation de l'aide à mourir représentait un espoir pour Jonathan Denis. Il préside l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
En France aujourd'hui, vous avez des centaines de Français qui doivent partir à l'étranger, en Suisse s'ils en ont les moyens, ou en Belgique, pour pouvoir être accompagnés comme ils le souhaitent, c'est-à-dire être accompagnés dans le cadre d'une aide à mourir parce qu'ils sont malades, qu'ils ont des souffrances physiques ou psychologiques insupportables et qu'on ne peut pas les accompagner comme ils le souhaitent en France. Donc l'espoir d'une nouvelle loi a été immense parce qu'on disait à ces Français, nous allons vous accompagner dans votre pays, selon la définition de votre dignité et comme vous l'avez choisi.
Le combat de Jonathan Denis pour autoriser l'aide à mourir trouve sa source dans son histoire personnelle en 2008.
J'ai accompagné moi mon papa dans le cadre d'une aide à mourir clandestine, illégale en France, qui a été pratiquée à sa demande par un médecin parce que mon père avait un cancer généralisé et des souffrances physiques et psychologiques qui étaient devenues insupportables. C'était une demande exprimée par mon père. Il aurait peut-être pu vivre encore quelques semaines, peut-être quelques mois, mais pour lui, il était temps de dire stop.
La légalisation de l'aide à mourir est source d'inquiétude pour le docteur Ségolène Perrucchio, chef du service des soins palliatifs au centre hospitalier Rive de Seine en région parisienne.
Même si personne ne sera obligé de demander une assistance au suicide ou une euthanasie, bien évidemment, de facto, tout le monde va être obligé de se poser la question. Certaines personnes qui sont probablement parmi les plus vulnérables, les plus isolées, ceux qui n'auraient pas les moyens de se soigner, pourraient subir une forme de pression de la société, pression inconsciente, et en se disant bah, « finalement c'est vrai, est-ce que pour moi ça n'est pas la meilleure solution ?» Et ça nous inquiète.
Pour le docteur Perrucchio, l'urgence est de rendre les soins palliatifs disponibles partout.
La priorité doit être à développer les soins palliatifs, et on verra à ce moment-là qu'il n'y aura plus beaucoup de demandes à mourir. J'ai en ce moment dans le service une jeune femme qui m'a dit « il y a un mois, j'avais tellement mal que je voulais mourir ». Cette dame, on lui a posé une pompe intrathécale avec de la morphine qui diffuse directement dans le liquide autour de sa moelle épinière. Et aujourd'hui, elle me dit bah « maintenant, ça va beaucoup mieux ». Tout n'est pas réglé, elle n'a pas zéro douleur, mais néanmoins, elle ne demande plus à mourir.
La légalisation de l'aide à mourir, sujet éminemment sensible, continue de diviser.
Reportage signé Valérie Cohen pour RFI. Il est quasiment 11h10 en temps universel. Midi 10 ici à Paris. Retour de l'information dans 20 minutes. Tout de suite sur RFI, c'est Grand Reportage.